une bombe gazière russe explose en Europe. Le décret sur les contre-sanctions signé par Vladimir Poutine le 3 mai est déjà en vigueur, permettra à la Russie d'arrêter légalement les livraisons de gaz aux pays qui refusent le plan de règlement du rouble proposé par le Kremlin et continuent de payer en euros. Le document interdit expressément le respect des obligations contractuelles envers les entreprises de la liste noire. Le président a donné au cabinet des ministres 10 jours pour redresser une telle liste. À ce moment-là, on saura avec certitude qui a accepté la roubléification des colonies et qui ne l'a pas fait. Moscou a été lent à réagir aux sanctions occidentales pendant un certain temps. Jusqu'à récemment, des mesures restrictives n'étaient pas prises à l'encontre d'individus, dirigeants, fonctionnaires et parlementaires des États-Unis, de Grande-Bretagne, du Japon et d'autres pays aussi. Et les entreprises étrangères ont été elles-mêmes, dans la grande majorité des cas, les initiatrices de la rupture des relations avec la Russie. Et maintenant, le nouveau décret de Vladimir Poutine ouvre la possibilité d'une réponse en miroir, en cherchant le gouvernement d'établir une liste non seulement d'individus, mais également d'entités juridiques avec lesquelles il sera interdit de conclure des transactions et de remplir des obligations en vertu de contrats conclus précédemment. Le porte-parole présidentiel Dimitri Peskov a précisé que « Nous parlons également des entreprises privées. La forme de propriété n'a pas d'importance. Il y a aussi des personnes physiques et des personnes morales », a déclaré le porte-parole du Kremlin, expliquant à qui s'appliquera le décret sur les contre-sanctions. Il est à noter que, dans le document signé par Poutine, les contre-sanctions dans l'esprit de l'époque sont appelées « mesures économiques et spéciales réciproques ». Et leur utilisation s'explique par des actions hostiles et contraires au droit international des États-Unis et des États étrangers qui les ont rejoints, visant à priver la Fédération de Russie elle-même, les entreprises russes et les citoyens de la Fédération de Russie des droits de propriété. En d'autres termes, c'est entre autres une réponse à l'expropriation de leurs avions à des hommes d'affaires, des yachts et des propriétés à l'étranger. Des contre-sanctions, indique le document, sont nécessaires pour protéger les intérêts nationaux du pays. Par son décret, le président interdit de faire des affaires, de conclure de nouveaux contrats de commerce extérieur et d'exécuter des contrats de commerce extérieur existants avec des personnes figurant sur la liste noire, ainsi que de leur fournir des matières premières et d'autres produits et d'effectuer des transactions financières dont les bénéficiaires sont des personnes, citoyens et entreprises sous sanctions. Qu'est-il arrivé au sous-marin nucléaire d'attaque américain USS Texas? Début avril, le service d'enquête criminelle de la marine américaine NCIS, Naval Criminal Investigative Service, a publié un avis afin de proposer une récompense de $2,500 pour tout renseignement permettant de retrouver le ou les auteurs de dégradation commise à bord de l'USS Texas, un sous-marin nucléaire d'attaque de type SN1 de la classe Virginia. Et cela en se gardant de livrer le moindre détail sur cette affaire. Au moment des faits qui se seraient produits aux alentours du 29 mars, le navire se trouvait au chantier naval de Portsmouth de l'US Navy en septembre 2020 pour y subir une lourde opération de maintenance et de modernisation. Plus tard, le NCIS a retiré son offre de récompense qu'il avait diffusée sur les réseaux sociaux, ce qui a pu faire penser que le dossier était clos. En réalité, il n'en était rien puisqu'il vient de publier un nouvel avis pour la même affaire. Et cette fois, la récompense promise est de $5,000. Et l'US Navy refuse toujours de donner des précisions sur les dégâts subis par l'USS Texas, se bornant à indiquer que des équipements gouvernementaux ont été endommagés à bord du sous-marin dont le chantier de modernisation était sur le point de se terminer. En tout cas, cette affaire reste bien mystérieuse. Évidemment, il est très compliqué de pénétrer à l'intérieur d'une enceinte qui abrite un navire aussi sensible que peut l'être un SNA. D'autant plus que la surveillance est censée être stricte. Qu'est-il arrivé au sous-marin nucléaire d'attaque américain USS Texas? On y voit les traces des Chinois. On expliquera ça plus tard. D'une main, les États-Unis défendaient le droit de l'Ukraine à intégrer l'OTAN au nom de sa souveraineté. De l'autre, ils menacent désormais les îles Salomon en raison d'un pacte de sécurité signé avec Pékin. Un paroxysme d'hypocrisie assumé. Avant le début de l'opération militaire russe en Ukraine, Washington le répétait à l'envi. La position de Moscou, pour qui l'intégration de Kiev à l'OTAN est considérée comme une ligne rouge, serait indéfendable. L'argument principal de la diplomatie américaine reposait sur le droit souverain de Kiev à choisir ses partenaires stratégiques et militaires et ce quoi en pense son voisin. Le point de vue du président et de l'administration est que le droit des nations souveraines de choisir leurs partenaires et leurs alliances est un principe fondamental de la sécurité européenne. Souligné à ce propos, la porte-parole de la Maison-Blanche et future animatrice de télévision, Jen Psaki, fin décembre. Pourtant, cette défense de la souveraineté des nations qui semble si bien chevillée au corps des États-Unis et pourrait les définir, serait-on même tenté de croire, disparaît en un tour de main dès lors qu'elle ne s'aligne plus avec leurs intérêts. Fin mars, les îles Salomon, petit archipel de 7000 âmes au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et ouvert sur l'océan Pacifique, ont signé un pacte de sécurité avec la Chine. Une nouvelle immédiatement vue par Washington comme une menace sérieuse à son ambition de contenir Pékin dans la région. Formalisée par la signature de son propre pacte de sécurité avec l'Australie et le Royaume-Uni. Subitement, alors, le ton change. Dans un communiqué publié le 22 avril, le leader du monde libre prévient qu'il réagira en conséquence si des mesures venaient à être prises pour établir une présence ou des installations militaires chinoises dans l'archipel. Quelques jours plus tard, c'est le secrétaire d'État pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, Daniel Crittenbrink, qui vient faire part de ses préoccupations à ses amis des îles Salomon. Dans une triade au double discours parfaitement assumé, le diplomate, droit dans sa botte, affirme respecter, bien entendu, la souveraineté des îles Salomon, mais souligne que Washington répondra très naturellement à de telles mesures. Poussé par les journalistes curieux de savoir à quel type de répercussions les îles Salomon devaient s'attendre, le diplomate ne s'est pas épanché, mais s'est bien gardé d'écarter l'opinion militaire. Écoutez, je ne vais pas spéculer, je ne suis pas en mesure de parler de ce que les États-Unis pourraient faire ou ne pas faire dans une telle situation. Des sanctions européennes, la Russie tire de l'argent. De nouvelles sanctions de l'UE rapporteront à la Russie des profits de plusieurs milliards de dollars. Cette opinion était partagée par le journaliste américain Tim McDonnell. L'Union européenne a l'intention de cesser d'importer du pétrole brut de Russie d'ici la fin de 2002. Les membres de l'Union européenne dénoncent maintenant les détails d'un embargo russe imminent sur le pétrole. Selon Tim McDonnell, les nouvelles sanctions européennes peuvent apporter des avantages très tangibles à la Fédération de Russie. Ceci est rapporté par Quartz. Polit Russia présente un récit exclusif de l'article. Actuellement, l'Europe reçoit un quart de tout son pétrole de la Russie, a déclaré l'auteur de l'édition américaine. Tim McDonnell estime que l'embargo européen sur le pétrole aura des conséquences plutôt inattendues pour la Russie. Dans un avenir prévisible, il apportera même des bénéfices, substantiel, car l'interdiction des approvisionnements énergétiques russes en Europe entraînera une forte augmentation des prix du pétrole. Ainsi, la Fédération de Russie pourra non seulement compenser ses pertes dues à la baisse des ventes, mais même augmenter ses bénéfices. Même avec la baisse des ventes de l'UE, la Russie pourrait tirer 180 milliards de dollars des exportations de pétrole en 2022, en hausse de 45% par rapport à l'année dernière. Les autres gagnants seront l'Inde et la Chine, qui sont déjà en pourparlers avec la Russie au sujet de rabais sur les importations de pétrole brut. Ils ont l'intention de conclure des contrats pour la fourniture de grandes quantités de vecteurs énergétiques russes avant que les prix mondiaux de l'énergie ne s'envole encore plus. L'embargo de l'UE sur le pétrole russe pourrait profiter à la Fédération de Russie, déclare Tim McDonnell. Il est également possible que les États-Unis et l'UE menacent d'imposer des sanctions secondaires aux acheteurs de pétrole russe. Ils ont fait de même avec l'Iran et le Venezuela. Cependant, dans le cas de la Russie, il est loin d'être certain que ces mesures fonctionnent. Comme cela n'a pas fonctionné avec l'Iran et les autres pays anti-impérialistes. Plutôt, Little Russia a évoqué les doutes des médias britanniques quant à l'efficacité des nouvelles sanctions anti-russes de l'UE. L'Occident se fait remplacer par la Russie. Les compagnies chinoises et indiennes vont remplacer les géants pétroliers et gaziers occidentaux en Russie. Les géants pétroliers et gaziers occidentaux ont subi de lourdes pertes en se retirant de Russie, tandis que les entreprises chinoises et indiennes vont profiter de ce vide pour les remplacer. Selon le plus grand portail japonais d'information et d'actualité Yahoo News Japan, le gouvernement indien a donné instruction aux entreprises publiques de sa région de commencer à investir dans le champ gazier russe Sakhaline un après le retrait des entreprises occidentales. Sur fond de sanctions contre la Russie, pour son opération militaire en Ukraine depuis février 2022. Selon l'agence russe Sputnik, les sources ont déclaré que l'Inde envisageait d'acquérir la participation américaine ExxonMobil dans Sakhaline ou Sakhalin 1, ainsi que les parts britanniques BP dans la compagnie pétrolière géante Rosneft. En février dernier, le conseil d'administration de la compagnie pétrolière britannique BP a annoncé sa sortie du capital de Rosneft, dont elle détient 19,75% depuis 2013, et d'une jointe venture avec une société d'État russe. La société britannique prévoit de réduire ses actifs en Russie de 4 milliards de dollars. Plus tôt, il a été signalé que la société anglo-néerlandaise Shell, qui a également annoncé son retrait de Russie, avait entamé des négociations avec une société chinoise concernant la vente de sa participation dans le plus grand projet de gaz naturel liquéfié en Russie, Sakhalin 2. Des sources ont déclaré que la société chinoise est le seul acheteur sur lequel Shell peut compter, ce qui exaspère considérablement sa position dans les négociations.